Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, les États-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban, avec une cérémonie de signature prévue vendredi à Genève. Le président américain Donald Trump est donc très attendu au sommet du G7 à Évian, en Haute-Savoie, où il vient d'atterrir. Emmanuel Macron espère pousser une initiative franco-britannique pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Et malgré l'annonce de cet accord entre l'Iran et les États-Unis, une frappe israélienne contre une voiture dans le sud du Liban a fait un mort aujourd'hui, selon un média d'État. Et c'est l'information principale du jour. Les États-Unis et l'Iran sont parvenus aujourd'hui à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient et sur tous les fronts, y compris le Liban, avec une cérémonie de signature prévue vendredi à Genève. Le président américain Donald Trump est donc très attendu au sommet du G7 à Évian, où il vient d'atterrir. Emmanuel Macron espère pousser une initiative franco-britannique pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Et on va revenir sur cet accord qui mentionne une réouverture complète immédiatement et sûr du détroit, une forme donc de retour à la case départ. Analyse de David Rigoulero, chercheur à l'Institut d'analyse stratégique.
Il faut demeurer prudent parce que justement il y a des narratifs contradictoires. Il y a une version iranienne et une version américaine, et notamment sur la question d'Ormuz, puisque du côté américain il est admis que ça doit être une réouverture inconditionnelle, c'est-à-dire oui un retour à la situation hantée comme vous l'évoquez, avec donc la restauration de la libre circulation et évidemment l'absence de tout péage et même de frais de gestion comme avancé par la partie iranienne, qui de son côté considère qu'on ne reviendra pas à la situation hantée et qui, à minima, de toute façon, prévoit un dispositif effectivement de taxation qui n'est pas un péage à proprement parler, mais qui s'apparenterait effectivement à des frais de gestion tels qu'ils peuvent exister dans le détroit du Bosphore. Ou les Dardanelles, avec une différence de taille, c'est qu'il y a une vraie prestation de service en Turquie, notamment de remorquage, de sécurisation, parce que les détroits sont très étroits, justement. Et or, ça n'est pas le cas, justement, pour le détroit d'Ormuz, les armateurs n'ont jamais demandé ce type de service.
Quelles conséquences économiques cela aura si la version iranienne demeure?
Il est peu probable que la version iranienne demeure telle qu'elle, parce que de toute façon, il faut bien comprendre que c'est aussi un affichage qui est destiné aux opinions publiques respectives. Donc il demeure un point d'interrogation et prudent. Je dis qu'on n'a pas les termes du protocole en question, même si l'Ormuz est un point central, puisque c'est séquencé en deux parties, il semble être d'abord Ormuz et ensuite la question nucléaire. Mais concernant Ormuz, tout le monde part du principe qu'il doit y avoir une réouverture complète, y compris la Chine d'ailleurs, qui a fait un message par le biais de sa diplomatie en attendant justement la restauration de la liberté de navigation. Chine qui est un allié théorique de Téhéran.
Et qui est influente sur l'Iran, absolument.
Et qui est évidemment influente et qui, en matière de taxation éventuelle et de droits de péage, risque d'être très rétive. C'est un euphémisme parce que ça ferait précédent et ça pourrait être détroit. Par exemple, le détroit de Malacca qui est hyper stratégique pour Pékin. Donc, il faut attendre d'avoir les termes précis, justement, et donc on ne le saura que lors de la signature, parce que là, on aura effectivement le détail, la teneur du protocole d'accord.
David Rigoulero, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et à l'Institut européen pour les études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé qu'il cherchait à obtenir la ratification par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un accord final avec les États-Unis, incluant le volet de son programme nucléaire. Mais qu'en est-il de la situation au Liban? Malgré l'annonce de cet accord entre l'Iran et les États-Unis, une frappe israélienne contre une voiture dans le sud du pays a fait un mort aujourd'hui, selon un média d'État, alors que le président libanais a affirmé plus tôt qu'il espérait que cet accord mette un terme définitif à la guerre avec Israël. Israël a annoncé maintenir ses troupes au Liban, en Syrie et à Gaza pour une durée indéterminée, selon le ministre israélien de la Défense. Un accord critiqué également par le ministre israélien d'Extrême-Orient, l'extrême droite chargée de la sécurité nationale qui affirmait qu'Israël n'était pas lié à ces termes. Réaction française maintenant, celle de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Il s'est félicité de cet accord, mais pour lui, la situation ne doit pas faire oublier, je cite, la catastrophe qui se joue en Palestine, à Gaza et en Cisjordanie. Jean-Noël Barrot.
La situation ne doit pas nous faire oublier la catastrophe qui se joue en Palestine, à Gaza comme en Cisjordanie. C'est la raison pour laquelle la réunion qui s'est tenue vendredi 12 juin à Paris est à la fois historique et essentielle. Réunion qui rassemblait des centaines d'Israéliens et de Palestiniens venus de la société civile porter un message de résistance et d'espoir, de résistance à l'idée que le camp de la guerre ne l'emporte sur celui de la paix, et d'espoir celui de deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité. Je le disais, une rencontre historique parce que pour les Palestiniens et les Israéliens, il est devenu quasiment impossible de se rencontrer, puisqu'il est presque impossible pour un Israélien de se rendre en Palestine et pour un Palestinien de se rendre en Israël. Ils se sont retrouvés à Paris pour établir une liste de recommandations et lancer un appel aux dirigeants du G7 réunis à Évian cette semaine. Et puis une rencontre essentielle car elle a permis de tracer la voie vers cette solution à deux États qui passe par le désarmement du Hamas qui doit redémarrer et avancer, et qui passe par la fin du blocus humanitaire à Gaza où l'aide doit entrer massivement pour soulager les souffrances des populations civiles, qui passe par des élections en Palestine auxquelles le président Mahmoud Abbas s'est engagé devant le président de la République et le prince héritier d'Arabie Saoudite l'année dernière. Il est indispensable qu'en 2026 puissent se tenir en Palestine des élections présidentielles et législatives. Et évidemment, recommandation essentielle, la fin de la colonisation extrémiste et violente en Cisjordanie.
Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères. Dans le reste de l'actualité en Ukraine, au moins 11 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une série de frappes russes. Un incendie a ravagé la cathédrale de la Dormition, un édifice orthodoxe emblématique de Kiev du XIe siècle et classé à l'UNESCO. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Keir Starmer a annoncé que le pays allait interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans lors d'une conférence de presse. Dans l'actualité en France, le gasoil, le carburant le plus consommé par les Français, est repassé vendredi sous la barre des 2 euros selon la Direction générale de l'énergie et du climat. Et les aides pour compenser la hausse globale des prix des carburants seront versées comme convenu après l'accord entre les États-Unis et l'Iran, a annoncé le Premier ministre français Sébastien Lecornu sur X. Et Emmanuel Macron a assuré que des moyens supplémentaires pour la justice où les enquêteurs seraient déployés, je cite, là ou là, si nécessaire pour mieux lutter contre les violences sur les enfants. Il a appelé à agir avec méthode après la sidération provoquée par la mort de Liana. Le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, a épinglé la chaîne CNews pour, je cite, la prédominance d'un même courant de pensée et d'opinion sur la sécurité, la guerre en Ukraine, l'immigration ou encore l'islam dans une décision rendue publique aujourd'hui. Et enfin, avons-nous la maîtrise de nos paroles? Peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Plus de 530 000 lycéens de terminale ont passé ce matin l'épreuve de philosophie, le coup d'envoi des épreuves écrites du bac. Une session marquée cette année par un durcissement de ton du ministre de l'Éducation sur l'orthographe, Thibaut Richard, est allé à la rencontre d'élèves à Paris.
Le jour J, pour les élèves de terminale, Radio Orient s'est rendu devant le lycée Condorcet recueillir le ressenti des élèves. Alors parmi les sujets, peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Cet élève n'a pas choisi ce sujet et il en est heureux.
Je suis relativement heureux de ce que j'ai fait. C'est le premier commentaire de texte que j'arrive vraiment à finir depuis le début de l'année. C'était un texte de Nietzsche qui parlait de l'importance de la méthodologie et de la méthode scientifique dans les travaux scientifiques.
Et cette année, le bonheur avait la cote, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements.
Je suis plutôt content et pas trop confiant non plus, mais assez vu que c'était un bon sujet qui est tombé sur le bonheur, une notion que j'aimais bien, que j'ai bien révisée, donc je suis assez content.
Cet élève a trouvé ça dur, mais bon. Pour elle, ça va plutôt bien.
C'était dur, mais en vrai, je pense que ça va. Après, à chaque fois, je dis ça va et à la fin, j'ai une mauvaise note, donc ouais, on espère. Hein. J'ai choisi le sujet numéro 2 sur le bonheur.
Ce sujet, peut-on être heureux quand les autres ne le sont pas? Mais la mémoire dans tout ça.
C'était quoi le sujet déjà?
Sujet signé Thibaut Richard. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.